Donc, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles à l'Évangile selon Jean. Et nous allons lire, en fait, pas tout le chapitre, mais une bonne partie du chapitre pour introduire, en fait, les versets que vous voyez dans votre bulletin. Et donc, je vous invite à tourner vos Bibles pour la lecture de ce texte qui va, en fait, nous donner le contexte pour le message en question cet après-midi. Merci.
Ça va mieux?
Ok, excellent. Donc, Évangile de Jean, chapitre 1er. Verset 1er. Pardon. Oula. Excusez-moi. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite humain, homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Puis un petit peu plus loin dans le chapitre, à partir du verset 29, nous continuons la lecture, et c'est là où Jean-Baptiste parle. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève, dans d'autres versions, qui ôte le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il existait avant moi. » Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est enfin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Jusque-là, la lecture de Dieu. Nous allons prier dans un instant, mais avant de faire ça, quelques mots d'introduction. Recommencer à zéro. Est-ce que vous avez jamais fait ça? Recommencer à zéro. On souhaiterait ne pas le faire si possible. Vous avez peut-être, il y en a des étudiants, je crois, dans la salle, vous avez peut-être perdu un fichier ou un document sur l'ordinateur. Manque de peau, vous avez oublié de sauvegarder et paf, c'est parti à jamais. Et vous devez recommencer. Malheur, n'est-ce pas? Même pour les adultes, les âgés. Imaginez la réalité devant laquelle se trouvent tous ceux qui sont trouvés face à une catastrophe naturelle, tempête, inondation, tsunami, feu, tremblement de terre, etc. Et justement, ces phénomènes dévastateurs semblent se multiplier de nos jours. On entend beaucoup parler de ce type de phénomène. Imaginez le ressentiment de ceux qui ont tout perdu et qui sont devant l'évidence de devoir recommencer à zéro. mettez-vous dans leur peau. Une triste et douloureuse affaire, même s'il ne s'agit que de pertes matérielles. Mais hélas, hélas, dans de tels cas, il s'agit aussi de pertes plus graves, des vies humaines, souvent. Nous habitons un monde où ces phénomènes révèlent les failles même de nos plans et projets conçus pour limiter les dégâts de tels événements. En réalité, ce sont nos limites, en fin de compte, qui se révèlent dans tout cela. Nous voilà aujourd'hui devant le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Et la question se pose sur une autre type de faille plus dévastatrice. C'est une faille qui se trouve chez l'être humain, chez l'homme, face à son Créateur. Il n'est même pas capable, selon le texte, de répondre à son Créateur, à qui il doit sa propre existence, pour pouvoir le recevoir. Il ne peut pas le recevoir. Il ne sait que le rejeter, selon ce texte. Il est perdu et sa faille est évidente. Il semblerait qu'il n'y ait rien à faire avec cette race si ce n'est pour Dieu de recommencer à zéro. Mais heureusement, une lueur d'espoir apparaît pour cette race, c'est que Dieu a décidé de ne pas la rejeter comme il a été lui rejeté. Non, par contre, il envoie sa parole, qui est à l'origine de toute chose, selon le texte, de toute vie. C'est cette parole qui est devenue chair, afin d'appeler un peuple nouveau, un peuple capable de lui répondre et de le recevoir. Ce premier chapitre de Jean parle de cette parole, Jésus-Christ, et la façon dont il commence à former ce nouveau peuple afin que la faille évidente ne fasse plus de ravages entre Dieu et sa création. Je vous attire l'attention maintenant sur les versets en question pour cette prédication en particulier. Tout cela n'est que pour un petit peu donner un peu de contexte. Donc, les versets 35 à 39, ce sont les versets avec lesquels nous allons prolonger notre réflexion. Donc le lendemain, Jean était encore avec deux de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit encore, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où habites-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Dans d'autres versions, c'est venez et vous verrez. Ils y allèrent donc vers où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi ou du midi. Oui, de l'après-midi, pardon. Nous allons prier et demander au Seigneur qu'il nous donne vraiment le don de son esprit afin que nous puissions creuser ses pensées d'après lui. Seigneur, nous sommes devant un texte qui est très important, un texte qui montre l'intimité de ton invitation, de ton désir que les hommes te suivent. Seigneur, merci de nous éclairer afin que ces paroles nous pénètrent au plus profond pour nous transformer. Pour ceux qui te connaissent, pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, je prie que ces paroles puissent être paroles de vie et de salut. Au nom de celui qui est venu pour nous sauver, Jésus-Christ. Amen. Tout commence avec une question qui est posée par Jésus avec ses deux disciples qui se trouvent là, dans l'endroit où Jean exerçait son ministère. Et c'est intéressant de voir lorsqu'il voit Jésus, parce que c'est Jean qui indique, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ces deux personnes, ces deux disciples, en fait, regardent cette personne qu'indique Jean et ils commencent à le suivre. Donc Jésus était en train peut-être de partir, aller quelque part, on ne sait pas exactement ce qui se passait, mais il se retourne, il voit ses deux disciples qui le suivent, et puis, qui le suivaient, et puis il leur pose une question. Jésus pose une question importante. Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Une question très importante dans cette réflexion de cet après-midi. Une question qui est posée, je crois, selon leur attente, l'attente des disciples. Qu'attendaient-ils en fin de compte, ces disciples? Qu'attendaient-ils? Qu'est-ce que vous pensez? Ils attendaient le Messie. Le Messie promis par Dieu, celui qui viendra délivrer le peuple de Dieu de tout ennemi et de toute menace. Donc, une question posée selon leur attente. Une question, deuxièmement, posée selon l'annonce. L'annonce de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Le sacrifice par excellence, quand il s'agit d'agneau, dans l'Ancien Testament, quand il s'agissait d'agneau, il s'agissait forcément de sacrifice. Donc le sacrifice par excellence, Jean est en train d'indiquer avec son droit, avec, oui, indiquer, voilà, je suis un peu perdu là. Mais Jésus, celui qui est cet agneau de Dieu, le sacrifice par excellence que Dieu a pourvu pour mettre fin au système qui ne peut pas, selon d'autres écritures, rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Donc dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9 et verset 9. Ils étaient attirés par celui qui pouvait les rendre parfaits, ses disciples. Donc, une question posée selon l'annonce de Jean-Baptiste. Une question aussi posée selon leurs besoins. Et quel était leur besoin? Ils étaient là où Jean exerçait ce baptême de repentance. Une question posée selon leur besoin du pardon, tout simplement. Voici celui, c'est ce que Jean leur dit, qui ôte le péché du monde. Le baptême de Jean était un baptême de repentance. Il est une chose de confesser ses péchés. Ça est une chose. Il en est une autre d'être purifié de ses péchés. Et écoutez-moi bien, la repentance n'ôte ni le péché, ni ses conséquences. Mais le sacrifice qu'a pourvu Dieu en est entièrement capable. Écoutez cela, Jésus leur pose cette question avant qu'ils cherchent à lui parler. Jésus est conscient de leur attente, de quoi il leur manquait et du besoin qu'ils avaient. Jésus n'est pas allé loin du lieu où Jean baptisait pour trouver ceux qui allaient appeler à le suivre. Jésus n'est jamais loin de ceux et celles qui reconnaissent leur besoin de changer, de se repentir et de chercher ce que Dieu veut leur annoncer par ses serviteurs. Jésus est là sans qu'on lui demande et il se retourne vers ceux qui sont rendus curieux par ce qu'ils ont entendu dire de lui. Face à cette question probablement inattendue, ces deux hommes répondent à sa question de façon intéressante. Donc Jésus leur demande, leur pose la question, « Que cherchez-vous ? » Et leur réponse, « Rabbi ». Le texte dit que cela veut signifier « maître ». Et ça, c'est très, très intéressant. Il appelle maître. Maître. Jean-Baptiste n'est plus leur maître. Jean a bien fait son travail. Voici quelque chose, je crois, qu'on peut apprendre de cela pour le travail auquel Dieu nous appelle, pour annoncer l'Évangile, pour montrer l'œuvre de Christ. Le travail de ceux qui témoignent de Jésus n'est pas d'accumuler des disciples autour d'eux, mais de les diriger vers Jésus, tout simplement. Ces hommes semblent être sûrs de vouloir ce rabbi comme leur maître. Rabbi. Que cherchez-vous? Ils disent, Rabbi. Est-ce qu'ils se disaient, on cherche un maître? Forcément. Et Jésus ne les corrige pas. Et ça, j'aime beaucoup. Il ne les corrige pas quand il appelle maître. Parce qu'il est le maître. Et selon les premiers versets du chapitre, c'est parce que c'est Dieu lui-même, en chair humaine. Deuxième question qu'il pose. Bon, maintenant, à leur tour, il pose à Jésus une question. Où habites-tu? Donc, première réponse à la question de Jésus, maître ou rabbi. Deuxième réponse, où habites-tu? Ils veulent savoir comment garder le contact avec lui, je crois. Ils ne veulent surtout pas ne pas savoir comment le retrouver. S'il est en train de partir, mais il faut qu'il reste, il faut qu'on sache là où il habite pour qu'on puisse lui rendre visite et puis continuer à le suivre. Vous vous souvenez de la parabole du trésor que je crois que c'est l'évangile de Matthieu, où il y a un homme qui trouve un trésor au milieu d'un champ et il décide de vendre tout ce qu'il a pour acheter le champ et avoir le trésor. Mais il va aller chercher toutes ses affaires, les vendre pour avoir ce trésor qu'il a trouvé. Et je crois que ça donne une petite, peut-être, aperçu de ce qui se passait dans l'esprit de ses disciples. Ils ont trouvé le Messie et il ne veut surtout pas, en fait, le perdre. Ils ont attendu trop longtemps pour perdre contact avec lui. Les disciples de Jean sont sûrs d'une chose, de vouloir le connaître. Et ceci, ils voulaient le connaître plus et de plus près. Où habites-tu? Qui sont ceux qui veulent vraiment? Une question pour aujourd'hui. Qui sont ceux qui veulent vraiment aller plus loin avec Jésus? Qu'est-ce que vous pensez? Ce sont ceux qui manifestent le désir de le connaître et cela de plus près. Lorsque cet intérêt est là, on est sûr qu'il y a possibilité qu'ils suivent vraiment Jésus. Ce sont ceux qui veulent être invités par lui, chez lui. Donc, deuxième point, Jésus invite à faire mieux connaissance. Donc, Jésus leur pose une question importante et puis après, Jésus invite à faire mieux connaissance. Qu'est-ce qu'il dit? Dans le texte que j'ai lu, il dit « Venez, leur dit-il, et voyez. » Dans d'autres versions, et je garde ça, « Venez et vous verrez. » Venez et vous verrez. Donc, une invitation, premièrement, à le connaître, à connaître Jésus. Inviter quelqu'un chez soi, vous l'avez fait, j'imagine, c'est inviter à un endroit privilégié. Et Jésus leur a cœur ce privilège. On ne sait pas où ils sont allés. On ignore quel type de demeure avait Jésus. Il dit d'ailleurs que le Fils, dans d'autres passages en fait, des évangiles, le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Le texte nous dit qu'ils ont passé ce jour-là ensemble, mais pas plus. Quel que soit le lieu et l'impression que ça donnait, cette rencontre les a apparemment marqués et les a convaincus davantage que Jésus était vraiment le Messie qu'ils attendaient. La preuve, c'est qu'ils étaient prêts à l'annoncer à leur entourage, ce qui, vous allez voir par la suite dans ce passage, dans ce chapitre, ce qu'ils allaient faire par la suite. Et même, ils allaient, quand on lit un petit peu plus, ils allaient quitter même leur métier pour suivre Jésus. Tellement, cette rencontre les a convaincus. Une invitation à le connaître. Et puis une invitation aussi pour voir, pour le voir. Inviter quelqu'un à passer du temps, à nous regarder dans le quotidien, c'est risqué. C'est risqué. Nos défauts vont certainement se faire voir au fur et à mesure. Vous vous demandez au couple, en fait, qui, lorsqu'ils se sont, voilà, ils se fréquentaient et puis ils se marient et puis ils se découvrent. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'histoires qui pourraient, en fait, vous raconter de la façon dont ils étaient peut-être pas choqués, mais interpellés par le comportement qu'ils ont constaté chez leur conjoint au fur et à mesure dans l'intimité de la vie quotidienne. Nos défauts vont certainement se faire voir. Inviter quelqu'un à passer du temps pour nous regarder dans le quotidien, c'est risqué. Mais Jésus les invite à confirmer si sa vie était en conformité avec celle du Messie annoncé. C'est intéressant de lire le constat de Pierre, un de ses apôtres, après avoir passé 3 ans sur terre avec Jésus. Écoutez ce qu'il dit. Lui, il parlait, c'est Pierre qui parle de Jésus, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Quel constat! Le fait de regarder Jésus de plus près ne révélera aucune faille, aucune chez lui. En fin de compte, c'est intéressant que ce soit Jésus qui les accueille et qui les reçoit. C'est pas anodin que ce soit dans cet ordre-là. Jésus n'attend pas qu'il le reçoive. Il connaît leur cœur, il connaît le cœur humain. Jésus prend l'initiative. Il les attend, il se retourne, il leur pose la question, il les invite. C'est lui qui prend l'initiative. Il n'y aura aucune réponse favorable à Dieu s'il n'était pas venu jusqu'à nous prendre l'initiative pour nous chercher. Ça, c'est, je crois, un enseignement très biblique. Il n'y aurait aucune réponse favorable à Dieu s'il n'était pas venu jusqu'à nous prendre l'initiative pour nous chercher. Le texte que nous avons lu, en particulier le verset 14 ou le verset 13, nous dit ça clairement. Le résultat de son initiative est très encourageant. Ses disciples de Jean viennent et ils passent du temps avec Jésus. Dès lors, ils deviennent disciples de Jésus et commencent à inviter d'autres à le connaître en les invitant de venir et voir celui qui semble réaliser la promesse faite par Dieu. Lisez en fait dans le chapitre 1er, verset 46, c'est Nathaniel qui dit à Philippe, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, qu'est-ce qu'il dit ?« Viens y voir. » C'est la même proposition qu'a faite Jésus. Et je trouve intéressant que c'est sa démarche quand il y a question quant à cette personne de Jésus. Ce message se veut vraiment personnel aujourd'hui. Et lorsque Dieu nous parle, c'est toujours personnel. Dernier point, Jésus vous parle. Il nous parle, mais Jésus vous parle en particulier cet après-midi. Une question incontournable aujourd'hui, Jésus vous pose cette même question, que cherchez-vous aujourd'hui? Que cherchez-vous? Une bonne question qui mérite une réponse appropriée. C'est une question à se poser à soi-même. Cela me rappelle une chanson de U2. Je n'ai pas encore trouvé ce que je cherche. I still haven't found what I'm looking for. Vous connaissez? Ouais, pas mal. Cette question relève justement la question de sa raison d'être. Et lorsque Dieu nous la pose, ce que Jésus fait, eh bien, autant réfléchir avant de répondre. Autant réfléchir. Mais ne vous trompez pas, Jésus ne pose pas cette question comme piège. C'est plutôt sa manière de vous aider à discerner qu'il est à l'œuvre dans votre vie et qu'il veut aller plus loin avec vous. Cet après-midi, j'oserais dire que Jésus est en train de vous poser cette question et qu'il attend une réponse de votre part. Les disciples de Jean ont répondu, ils voulaient savoir plus sur lui parce qu'ils croyaient qu'il était celui qui mettrait du sens et de l'ordre à leur vie. Je peux bien dire qu'ils n'étaient pas déçus, ses disciples, d'avoir osé de le suivre jusqu'à ce qu'il les invite à devenir ses disciples, ce qu'il va faire. J'ai dit que les disciples de Jean attendaient le Messie, c'est assez évident. Mais c'est aussi vrai que Jésus les attendait. Lorsqu'il traînait là où Jean exerçait ce ministère, là où les gens ont décidé de marquer leur refus de continuer dans le péché, dans ce lieu de repentance, Jésus attendait ceux qui allaient répondre à l'annonce de sa venue. Et je trouve très intéressant cette attente de Jésus. Aujourd'hui, ce même Jésus vous attend. Et lorsque vous décidez de renoncer au péché, de changer de vie et de savoir plus sur lui, il va se retourner pour vous rencontrer vraiment. Et cela nous mène à une autre chose qui est incontournable aujourd'hui. Jésus vous invite. Oui, il vous pose la question « Que cherchez-vous ?» Mais il vous invite aussi. Il vous dit « Venez et vous verrez. » Vous allez me dire « Mais vous parlez à des croyants ?» Mais est-ce que vous connaissez Jésus vraiment dans la profondeur de sa personne? Je connais ma femme depuis à peu près 17 ans et j'en découvre des choses, hein. Même aujourd'hui, il y a une découverte continuelle de sa personne. Et si c'est Dieu, est-ce qu'on le connaît vraiment, profondément? Il y a toujours, toujours de l'espace pour progresser. Jésus pose la question, vous pose la question et vous invite. Venez et vous verrez. Jésus a pris l'initiative pour vous adresser son invitation. Si vous le cherchez, si vous êtes prêt à l'appeler maître et si vous êtes curieux de savoir plus sur lui, c'est certainement le moment d'agir. Aujourd'hui, Jésus vous est annoncé. Aujourd'hui, l'invitation à le connaître, c'est l'invitation de devenir son disciple. Passez du temps à le connaître et vous verrez son intégrité et son œuvre parfaite. Suivez-le et vous saurez qu'il est vraiment celui que Dieu a envoyé, le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde afin de nous tirer d'une triste affaire. Je vous lance le défi pour ceux qui sont en train de réfléchir sur ces questions que Jésus pose et qui ne le connaissent pas très bien. Vraiment réfléchir à ces questions pour vous, par rapport à votre relation avec Dieu. Et pour ceux qui connaissent le Seigneur, que vous vous posez la question pour comprendre vraiment la profondeur et de la personne de Dieu et de l'attente qu'il a sur vous, avec les dons qu'il vous a donnés pour servir son Église dans ce monde, afin que son royaume puisse être perçu de manière rayonnante. Mot de conclusion. Jésus est venu dans le monde et le monde ne l'a pas reçu. Ce qui est encourageant, c'est que cela ne veut pas dire que sa mission est inutile. Il est venu, il a été rejeté et même il est même mort à cause de ce rejet. Et pourtant, c'est grâce à cette mort qu'il a subi comme l'agneau de Dieu qui lui permet d'ôter l'origine de notre faille, la faille dont on a parlé au début, le péché. C'est grâce à son œuvre sur la croix et sa victoire sur la mort, lorsqu'il est revenu, il en est revenu, qui lui permet d'attendre une réponse favorable à son invitation de le recevoir, tous ceux qui répondront. La parole est devenue chair pour que nous puissions l'accueillir comme Messie, comme délivreur, comme sauveur. Écoutez les paroles de Jean dans ce premier chapitre encore. À tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient en son nom, eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un volonté de chair, ni d'un volonté d'homme, mais de Dieu. La parole qui a créé toutes choses s'adresse à tous ceux qui cherchent dans un lieu où ils reconnaissent leur besoin du pardon, une parole d'invitation pour le suivre afin de devenir enfant de Dieu, disciple de Jésus le Maître, membre de ce nouveau peuple qu'il va recréer par sa grâce. Il ne reste qu'une chose à dire, venez, verrez, il vous attend. Prions. C'est incroyable, Seigneur Jésus, c'est incroyable, presque impensable quand nous nous connaissons dans l'état dans lequel nous nous trouvons que tu nous invites. C'est incroyable que tu es venu nous chercher, que c'est toi qui as pris l'initiative pour nous afin que nous soyons sauvés. Seigneur, nous te sommes reconnaissants et nous voulons grandir dans notre connaissance de toi. Seigneur, afin que cette connaissance puisse approfondir et afin que nous puissions dire aux autres, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et leur montrer que tu es celui que le Père a envoyé afin que le monde puisse être recréé et pour que toi, Père, puisse recréer un tout nouveau peuple. Merci de nous avoir fait part de ce message, de nous avoir invités, et Seigneur, pour l'œuvre de ton esprit dans notre vie et dans la vie de ton Église. Que ton nom soit glorifié. Merci d'être venu, et merci encore de nous avoir invités à venir te connaître. Au nom de Jésus. Amen.